La pandémie continue d'avoir un impact sur des chirurgies qui sont constamment reportées. Il y a 150 000 chirurgies qui sont en attente au Québec. C'est un peu beaucoup, gracieuseté de la pandémie. Et là, ces jours-ci, il y en a qui sont repoussés parce que les activités hospitalières sont ralenties, notamment à cause des patients COVID majoritairement non vaccinés qui monopolisent des lits dans les hôpitaux. Ça exaspère les soignants, dont les médecins. On va en parler avec Dr. Patrick Bellemare, les intensivistes et chef médical des soins intensifs au CIUSSS du nord de l'île de Montréal et à l'hôpital du Sacré-Cœur. Dr. Bellemare, bonjour.
Bonjour à vous.
Quel impact ont les patients COVID présentement sur les activités de votre unité de soins intensifs?
Il y a quelques patients hospitalisés. Là, au cours des derniers jours, on a oscillé entre 3 et 5 patients COVID qui peuplaient une partie de notre parc de lits. Localement, en saison estivale, on a un parc total chez nous d'une trentaine de lits. Et donc, c'est faire la règle de 3, là, donc 4-5 patients sur la trentaine de lits. Comme en début de pandémie, quand on soupçonne un cas d'être porteur de COVID, il y a tout un protocole à appliquer, puis il y a des modalités d'isolement à appliquer également. Puis quand on confirme les COVID, lorsque c'est possible, on essaie de les cohorter, là, de les mettre ensemble pour que ça minimise l'impact sur le reste de l'activité, mais on y arrive de façon mitigée, je vous dirais.
La COVID là, force l'hôpital du Sacré-Cœur à repousser des chirurgies. Expliquez-nous donc comment ça marche dans le réel quand on doit prendre la décision de reporter une chirurgie. Quel type de chirurgie écope?
Bien, toutes les chirurgies qui requièrent une surveillance de haute intensité à cause de la nature même de la chirurgie. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui subit des pontages, une chirurgie à cœur ouvert ou un remplacement de valve cardiaque, c'est des gens qui sortent de salle d'opération, encore anesthésiés, encore branchés sous respirateur, qui ont besoin d'une surveillance très étroite pour le premier 24 heures. Puis ça se fait dans un environnement de soins intensifs. Si on ne peut pas donner l'accès aux soins intensifs à cette clientèle-là en sortie de salle, ben la chirurgie ne peut tout simplement pas avoir lieu. Fait qu'il y a certaines chirurgies des grands vaisseaux, là, quelqu'un qui a un anévrisme sur l'aorte, qui est un vaisseau majeur à la sortie du cœur, c'est une autre circonstance où on surveille le plus souvent les gens aux soins intensifs en post-opératoire. Les chirurgies pour divers types de tumeurs, là, les tumeurs crâniennes qui se font opérer. C'est que c'est toutes des chirurgies qui sont prévisibles, là, qui vont être électives ou semi-urgentes, mais où on prévoit d'emblée une surveillance aux soins intensifs. Quand on se retrouve dans une situation de débordement, là, où il y a plus de demandes pour les soins qu'il y a de possibilités d'ouverture de lits, on n'a pas le choix de compromettre ces chirurgies-là. C'est qu'actuellement, il y a une association mathématique immédiate entre l'achalandage total qui inclut des cas de COVID puis la possibilité de faire ou de ne pas faire des chirurgies.
Docteur Bellemare, là, on le sait, les patients COVID qui sont admis dans les hôpitaux présentement sont très majoritairement non vaccinés. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec ces patients qui ont choisi de ne pas être vaccinés et qui, à cause de ça, se retrouvent sous vos soins?
C'est difficile de ne pas avoir de discussion, je vous dirais, avec ces patients-là lorsqu'ils sont parlables au moment où ils rentrent aux soins, parce que parfois, ils sont dans un état où on n'est pas capable d'avoir d'échange avec eux. Là. C'est des gens qui ont des difficultés, puis on fait d'abord notre travail, c'est évident. Là. Mais lorsqu'ils sont parlables, c'est certain qu'on les questionne sur leur statut vaccinal, puis quand ils sont pas vaccinés, on leur questionne sur les motifs. Il y a beaucoup de cas où les gens ont choisi de pas être vaccinés. Ils le regrettent pour la plupart, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui ont choisi de pas être vaccinés, puis qui avaient des perceptions erronées sur la nature de la COVID, puis sur sa gravité potentielle.
Mais ils le regrettent, ils vous le disent, ils verbalisent ça.
Ouais. Pour la plupart, oui. Mais si vous êtes en train d'avoir des difficultés majeures aux soins intensifs, c'est difficile de ne pas percevoir le concret qui vient avec l'infection. Là. C'est que oui, pour la plupart, ils regrettent.
Est-ce qu'il y en a qui s'entêtent?
Pas que j'ai croisé à date, je vous dirais, en même temps, ce qu'on voit, qui est fort surprenant, c'est qu'il y a parfois des membres de famille de patients affligés qui persistent dans leur volonté de ne pas être vaccinés puis dans leur perception de la réputation surfaite de la COVID, ce qui est un peu surprenant. Puis auprès de d'autres gens qui consultent, en fait, qui consomment des soins intensifs, on retrouve des grands, grands récalcitrants à la vaccination. Puis là aussi, c'est difficile de comprendre parce que ces gens-là sont à même de constater que le soin à leurs proches est directement compromis en partie par le fait qu'on consacre une partie de notre activité à la COVID.
Comme soignant, Dr Bellemare, comme soignant, comme médecin de soins intensifs, comment vous faites pour garder votre empathie dans des circonstances semblables?
Je fais un gros travail sur moi-même. J'ai quand même prêté le serment d'Hippocrate comme mes contemporains. Pour la plupart, on a un travail à faire, puis on assume notre travail, puis on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger la clientèle. On voit des gens qui sont aux soins intensifs pour toutes sortes de raisons. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qui sont pas nécessairement des gestes intelligents, puis qui aboutissent aux soins intensifs parce qu'ils ont pris les mauvaises décisions. Le fait de ne pas être vacciné pour la COVID, personnellement, je considère que c'en est une mauvaise décision. Puis en même temps, ça m'empêche pas de faire mon travail avec cette clientèle-là. Mais je ne vous cacherai pas que ça génère de la frustration. Puis je vous cacherai pas non plus que quand on a une chance d'échanger avec les patients, on leur explique que leur décision a des répercussions qui vont être à même de le constater un peu sur le reste de notre activité, qu'on va faire de notre mieux pour les aider, puis on les incite fortement à nous aider à inciter des gens à leur sortie d'épisode de soins pour que ces gens-là comprennent que c'est important d'être vaccinés. C'est le mieux qu'on peut faire.
Quand on va sortir de cette crise-là, qu'est-ce que vous espérez voir changer dans le système de santé?
Bien, dans le système de santé, ce qui m'irrite personnellement beaucoup de la dernière année et demie. En fait, il y a plusieurs choses qui m'irritent. Là. Je pourrais vous les donner par ordre alphabétique, si vous voulez, mais on va en dire une. Le fait que depuis le début de la pandémie, le réseau complet s'est tourné de bord pour concentrer son activité à la lutte pandémique. Puis pendant très longtemps, on s'est comporté comme s'il existait une seule maladie. Ce qui est évidemment pas le cas. Et puis, ça nous a mis dans une situation où, alors qu'on a des statistiques vraiment incroyablement précises sur la clientèle COVID puis sur son effet sur l'achalandage hospitalier, on a une perception très approximative de tous les effets collatéraux puis de toutes les autres conditions de santé. Le suivi, disons, de la consommation du parc de lits en général, puis la démographie des soins intensifs n'aura jamais été aussi bien suivie chez nous que pendant la pandémie. Puis notre connaissance de la clientèle COVID est beaucoup meilleure que celle de tout le reste de la connaissance, que notre connaissance de tout le reste de la population de soins intensifs. Je pense pas que ce soit adéquat. Moi, j'aimerais beaucoup savoir combien de gens se sont présentés trop tard pour se faire prendre en charge pour un cancer. Puis de ce point de vue-là, on peut vous dire on a des statistiques très précises sur les délais oncologiques chirurgicaux, ça c'est vrai, mais pour faire partie des délais oncologiques, les délais donc entre le moment où on vous diagnostique un cancer, on dit que vous avez besoin d'une opération, puis le moment où l'opération a lieu, pour avoir ces statistiques-là, il faut que quelqu'un ait diagnostiqué votre cancer. Il faut que vous ayez consulté pour qu'on diagnostique votre cancer. Puis au cours de la dernière année et demie, il y a beaucoup de gens qui ont tout simplement pas consulté ou qui ont tout simplement pas eu accès aux ressources pour qu'on les investigue, puis qui sont peut-être devenus tellement malades tellement vite qu'ils n'ont jamais eu besoin de chirurgie parce qu'au moment où on a diagnostiqué une maladie, c'était plus une maladie qui nécessitait une chirurgie. Je suis pas certain qu'on a une idée exacte de cette proportion-là de la clientèle, puis j'aimerais qu'on apprenne de la crise qui vient de passer. Puis de façon prospective, qu'on ait un plan de contingence plus permanent pour être capable d'augmenter notre capacité d'accueil quand on est devant une crise sanitaire qui pourrait faire en sorte qu'on soit débordé. Vous savez, actuellement, là, on parle de la quatrième vague puis de l'effet des COVID sur les délais chirurgicaux, mais il y a quelques mois à peine, une partie du réseau s'affairait à réfléchir à des modalités de on appelait ça autrement, mais c'était des modalités de triage. Si jamais le réseau était débordé puis qu'on se retrouvait dans une situation où on n'était plus capable de soigner tout le monde. C'est quand même gros quand on arrive là. Puis personnellement, j'ai pas du tout le goût qu'on arrive jamais au moment où on va être obligé de priver quelqu'un, que ses habitudes de vie soient bonnes ou pas bonnes, que ses décisions soient bonnes ou pas bonnes. Hein. On devrait jamais priver personne d'un accès aux ressources de santé lorsqu'elles en ont besoin. Là, ça s'inscrit, je pense, dans notre philosophie collective déjà. Tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé. Puis on est venu bien proche d'un moment au cours des derniers mois où on allait avoir à trier la clientèle, à sélectionner les gens qui allaient avoir le privilège de se faire soigner aux soins intensifs. Moi, j'ai plus le goût de revoir ce film-là, je vous dirais.
Je comprends. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne chance dans votre unité de soins intensifs à Sacré-Cœur.
Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne journée.
Salut, c'était Dr. Patrick Bellemare, qui est intensiviste à Sacré-Cœur. Bon, on va aller parler de sport.